sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots.
Comme à la radio.
Comme à la radio. Ça ne dérangera pas. Ça n'empêchera pas de jouer aux cartes.
Un mercredi par mois, de 17 à 18h.
Sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait
comme à la radio. Sur le 92.2 Canal Sud à Toulouse.
À la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce.
Bonjour, vous êtes sur Canal Sud 92.2 sur la bande FM. Et c'est comme à la radio, jusqu'à 18h. Comme à la radio, c'est un peu de bruit pour briser le silence. Parler du monde comme il va, comme il ne va pas, comme on le subit, comme on y agit, comme on s'y agite, comme on le déteste, comme on l'aime, comme on voudrait le mettre à la casse et le refaire de fond en comble, le défaire de la cave au grenier et pour aujourd'hui d'une frontière à l'autre, d'un barbelé à l'autre, d'une rive à l'autre. Pour la 4e édition de Comme à la radio, et parce que nous sommes 50 ans après le 17 octobre 1961, nous parlerons de ces Algériens qui, descendant peut-être de ceux que la police française noya dans la Seine en 1961 et qui se battaient pour une Algérie indépendante, se noient aujourd'hui dans la Méditerranée pour la quitter, cette Algérie indépendante, et rejoindre les rives européennes. En 1961, on rêvait justement de réaliser ses rêves dans l'Algérie indépendante. En 2011, on la fuit pour réaliser ses rêves ailleurs. On évoquera en particulier les haragas, ceux qui brûlent en arabe, ceux qui brûlent les frontières, leurs papiers et aussi leur vie parfois. Ceux et celles qui par centaines tentent clandestinement la traversée des 200 kilomètres qui séparent la côte algérienne de la Sardaigne ou de l'Espagne, à 10 ou 60 dans une petite barque, qui doivent échapper aux gardes-côtes algériens, aux vedettes espagnoles, aux radars de l'Europe forteresse, mais aussi aux aléas de la mer, de la boussole ou du GPS. Aventure dangereuse et folle, héroïque aussi, dont on ne sort pas toujours vivant ou libre, mais aventure têtue qui continue de nourrir les aspirations de nombreux jeunes Algériens. Alors, avec nos invités, Toufik Mohamed Toufik et Hafid Saïdi, on essaiera de comprendre pourquoi on a tant envie de quitter l'Algérie aujourd'hui, pourquoi la route choisie est celle de l'Europe, pourquoi on le fait dans des conditions si risquées, et puis qui sont les haragas, comment on se prépare pour partir, qu'est-ce que ça produit dans la société algérienne, et comment l'État réagit des deux côtés de la Méditerranée. Voilà.
Donc autour de la table avec nous aujourd'hui, comme on l'a dit, Hafid Saïdi, peut-être quelques mots pour te présenter.
Mais je suis sociologue de formation. J'écris quelques livres de sociologie et de poésie contemporaine qui ont un rapport très étroit. J'essaie de faire une liaison entre la sociologie et la poésie contemporaine. Bon, c'est à titre personnel. Et puis j'essaie de partager ce que je ressens de la société et des relations entre humains. Pour exprimer parfois ma colère, parfois l'amour que j'ai pour le prochain et le lointain.
Merci. Et puis aussi Mohamed Toufik avec nous. Pareil, quelques mots pour te présenter.
Bonjour, merci de nous avoir invités. Moi, je suis journaliste algérien. Je réside depuis 12 ans en France. Je travaille sur tout ce qui est culturel ici à Toulouse concernant la communauté maghrébine. Donc je couvre la page culturelle de plusieurs médias en Algérie. Et là, je viens de finir d'écrire un livre sur les Hanifis en Algérie qui sortira le mois prochain chez les éditions AEL. Voilà.
Très bien, merci beaucoup à vous deux. Alors pour commencer cette émission, on vous propose d'écouter un extrait du témoignage de monsieur Madani Barthi, le père de Brahim Barthi qui a disparu en septembre 2007 après une traversée clandestine vers l'Espagne. Donc dans ce court extrait, le journaliste l'interroge sur les raisons du départ de son fils et voilà ce qu'il répond.
Est-ce que tu as senti à un certain moment que justement il avait cette envie de partir?
Oui, maintenant j'essaie qu'on tient, non, mais maintenant avec la recherche que j'ai faite, j'ai contacté beaucoup de jeunes, Assid Lewari, les quartiers populaires, les gens qui ont la mal vie. Un jeune, c'est un jeune. Je comprends beaucoup les jeunes maintenant. C'est pas un problème de travail ou bien un problème de. C'est un problème de communication. Les jeunes, ils n'arrivent pas à communiquer avec l'entourage, que ce soit. C'est pas le voisinage ou là, les parents ou là tout ce qui en suit, parce que la communication c'est un problème de, comme on dit chez nous, quand un bonhomme il a des problèmes familiaux, il quitte. Par exemple, notre génération, quand on a un problème avec la mère ou avec le père, on va chez notre grand-mère. Mais actuellement la famille algérienne, elle est un petit peu, c'est comme à l'européenne. C'est les jeunes, ils veulent l'indépendance, ils veulent vivre indépendamment. Déjà mon fils, il avait 20 ans, il voulait être seul, il voulait vivre tout seul pour être libre. Moi, je lui ai tout préparé, la voiture, le commerce. Je lui ai donné beaucoup de choses, du truc technique, je lui ai appris à comment, je sais pas. Mais finalement, je sais pas si c'est de ma faute. Finalement, je sais que ce n'est pas de ma faute, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont plus développés que mon fils, plus instruits. Ils ont préféré quitter. Et ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de chômage. Je suis sûr et certain, je suis convaincu que ce n'est pas un problème de chômage. C'est un problème de communication. Je le répète, je le dis, les jeunes, ils n'arrivent pas à communiquer avec l'entourage d'Ahab.
C'est du mal-être?
C'est du mal, c'est de la mal-vie. Les gens, ils se sentent marginalisés, quelque chose comme ça. Ils veulent voir ailleurs, parce que déjà l'Europe normalement pour tout le monde, l'Europe c'est autre chose. Les gens ils sont ouverts, ils sont émancipés, il y a des trucs différents. Ils veulent voir pour essayer, tenter leur chance. Parce qu'un jeune, qu'est-ce qu'il aime un jeune? Qu'est-ce qu'il veut dans la vie? Il veut qu'il soit marié par exemple, il veut avoir de l'argent. Il veut se défouler, il veut se, je sais pas là, comment dire.
Il veut faire la fête.
Quand j'étais jeune, on a fait des trucs. Mais actuellement, l'immigration clandestine, c'est après une forme de révolte. Un jeune, quand il en a marre, il ne trouve pas avec qui communiquer, il veut que botte. Je vais prendre un botte, un patera. Et je vais quitter, c'est vrai, parce que c'est facile. Avec 8 millions ou 7 millions, on peut avoir une petite barque, être un groupe de 6 à 7. Déjà, le haraga, c'est tous les jours. Hier, il y avait des haragas qui sont partis. Voilà, ils sont arrivés. Donc, c'est un phénomène qui ne peut pas s'arrêter, à moins que, je ne sais pas, tous les Algériens ou tout le monde, les responsables, ils doivent donner le moyen aux jeunes de communiquer directement. Il ne faut pas les marginaliser. Un jeune, c'est une ressource capitale pour n'importe quel pays.
Voilà, peut-être, est-ce que vous avez envie de réagir à ce témoignage? Est-ce que vous partagez l'analyse qui est faite ici des raisons du départ?
Moi, j'ai été très à l'écoute donc, de ce témoignage, du témoignage de ce monsieur. Il présente les causes, finalement, du départ de ces jeunes haraga vers l'Europe, l'Espagne... La Sardaigne, c'est ça, hein. La France, bien sûr. Mais je crois que, ben, effectivement, il y a beaucoup d'autres raisons qui, autres que celui de la communication. Il ne faut pas négliger le fait qu'il y a effectivement une crise économique qui touche la jeunesse algérienne, hein, le peuple, mais aussi la jeunesse algérienne. Parler de problèmes de communication me semblerait relativement assez réducteur. Je crois qu'il faut renvoyer ça, bien que l'idée très intéressante qui est développée par le monsieur. Je crois qu'il faudrait renvoyer ça plutôt à une question de culture au sens global, une question d'accès de la jeunesse à la culture universelle, etc., pas uniquement algérienne. Effectivement, l'Algérie, c'est l'histoire d'un pays, mais c'est aussi le résultat d'une histoire récente. Et bien sûr, avec le développement des technologies, de la communication, je crois que les représentations de la jeunesse algérienne se sont développées. Elles participent quelque part à un nouvel imaginaire, hein. Et effectivement, quand on dit que ces jeunes décident de partir, pourquoi partir justement? il manquerait sans doute cette question de l'accès à la culture globale algérienne et puis universelle. Hein. Je crois que moi je retiens cette idée de communication comme tout à fait valable. Hein. C'est,
qu'est-ce que tu veux dire par accès à la culture ?
L'accès à la culture, justement, en Algérie, il y a ce que je qualifie en tant que sociologue, des espaces de culture et des espaces culturés, entre guillemets. Hein. Ça, c'est le concept que je développe dans un de mes textes. On sait qu'on vit un ensemble d'acculturations, hein, en Algérie, comme en Tunisie, comme dans tout le Maghreb, comme dans n'importe quel pays du monde, d'ailleurs. Et le résultat de ces acculturations, c'est qu'on aboutit finalement au constat qu'il y a une certaine frustration, surtout au niveau de la jeunesse. L'Algérie est un pays où 75% de la population a moins de 30 ans. C'est un pays jeune, enfin, représenté par une jeunesse qui a envie vraiment de créer, d'accéder justement à de nouvelles formes d'interrogation par le biais de la création culturelle qui me semble actuellement bloquée. Par disons un pouvoir, faut le dire carrément, hein, qui met tout en œuvre pour ne pas justement proposer des pistes des nouvelles pistes finalement en matière de création, etc. Alors, on le voit au niveau du budget de la culture en Algérie, hein, on va financer davantage le ministère de la Défense plutôt que la culture, alors que l'Algérie a les moyens de participer plus généreusement au développement et à la liberté même des jeunes Algériens.
Ben moi, pour revenir sur le témoignage de ce père de famille, c'est que Haraga, c'est une tragédie nationale, pour le pouvoir algérien d'ailleurs, et deuxièmement, c'est une tragédie pour la famille, parce que c'est des jeunes qui partent. Donc, quand il y a des jeunes parents aussi qui perdent leur enfant et qu'ils n'ont aucune nouvelle de ce qui est devenu. Donc, s'il a réussi, s'il n'a pas réussi. Souvent, ceux qui ne réussissent pas, ben, les corps ne reviennent pas à la famille pour les enterrer. Donc, le deuil, il est permanent. Après, le volet qui vient d'évoquer ce monsieur, c'est que...
Sur le pourquoi du départ, oui.
Sur le problème de communication. Le problème de communication en Algérie, il est à partir du moment où l'autre ne te comprend pas. L'autre ne répond pas à tes attentes. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est que... Parce qu'il faut voir que les gens, ils partent parce qu'ils ont envie d'améliorer leur vie sociale. Enfin, la motivation du départ, à la base, c'était ça. C'était, on vit mal ici, on va aller ailleurs pour vivre mieux. Bon, sauf que le phénomène de Haraga, il est passé par plusieurs étapes. Tout au début... Il y avait des gens qui se cachaient dans des bateaux de marchandises ou dans des bateaux de voyageurs. Et après, ils arrivaient en Europe. Bon. Après, vu que la situation économique se dégrade de plus en plus et les jeunes ne se sont pas pris en charge, ils ont décidé eux-mêmes de cotiser. Voilà, ça revient à entre 700 et 800 euros par personne pour pouvoir acheter ce qu'on appelle en Oranais ou en Algérien le beauté, ce qui est la petite embarcation de fortune et un petit GPS, voilà. Donc maintenant, donc il y a pas de souci pour ça. Et vas-y, on y va. Donc on n'arrive pas. Mais le fait, c'est que ce qui est inquiétant, c'est que bien que ces jeunes ont vu des potes à eux, parce que généralement c'est souvent des potes de quartier qui vont, hein, on les voit quand ils arrivent ici, parce que je crois que Rafid, si on a le temps, il pourra parler un peu sur... Avant, les gens ils venaient ici, ils trouvaient des compatriotes, voilà, des gens de la même culture ou même endroit. Maintenant, en fait, les gens, non, ils déplacent leur quartier carrément, en fait. C'est du groupe de jeunes qui se cotisent, qui sont tout le temps ensemble, qui prennent une embarcation de fortune et qui débarquent en Europe. Bon. Ça, en fait, tout a été fait pour dissuader ce phénomène. Et ça n'a pas marché, parce que ces jeunes-là sont au courant qu'il y a des jeunes qui meurent. Ils ont même enterré leur propre pote, parce qu'ils ont tenté avant, et après ils ont échoué. Mais il n'y a rien qui fait en sorte aujourd'hui de diminuer ou éradiquer ce problème, parce que... ce problème, il est motivé, c'est un peu paradoxal, mais le seul mobilisateur aujourd'hui pour ces gens, c'est le désespoir. Et du coup, on réfléchit pas, on y va. Donc, on arrive, tant mieux. Ben, si on n'arrive pas, tant pis. À part quand, par contre, si on est arrêté et qu'on retourne, ah ben, on retente la tentation. C'est là, en fait, on voit qu'il n'y a aucune perspective d'avenir qui est proposée à ces jeunes-là. Donc,
C'est-à-dire quoi ? On ne peut pas s'imaginer avoir une vie heureuse et pleine en Algérie aujourd'hui ?
Ben non, parce que ceux qui viennent aujourd'hui dans l'embarcation de fortune, bon, on en parle, beaucoup de jeunes chômeurs et tout ça, mais ceux qui font de l'immigration en général, quoi, les gens qui viennent ici, ben aujourd'hui, il y a plein de médecins qui arrivent parce que les conditions de travail ne leur permettent pas d'exercer leur travail comme il faut. Plusieurs professeurs, enfin, voilà, toutes les institutions de l'État aujourd'hui en Algérie sont en grève, donc tout est paralysé. Et aujourd'hui, voilà, les Algériens remarquent qu'il y a je dirais même un désert à vide entre ceux qui sont au pouvoir et la population. Vous avez un pouvoir qui veut ni écouter ni voir, et tu as une population en fait qui voit que le pouvoir ne répond pas. Donc partir, c'est le seul moyen qui reste avant l'immolation avec le feu. On est vraiment la mort en Algérie se donne en spectacle. On va y aller, on va tenter. Ben, si on n'arrive pas, on s'immole avec le feu. Donc ça, de point de vue psychologique dans une société, c'est vraiment dramatique parce que il y a aucune prise en charge. Ni avant, ni pendant, ni après. Enfin, le mec, quand il va aller s'immoler avec le feu, ben, il crève, il s'en fout. C'est pas ça qui va démarrer une révolution en Algérie, c'est pas la Tunisie. Hein. Là, on est à, je sais pas, 21 personnes qui sont immolées avec le feu. Bon, quand tu crèves pour toi. Donc ça, c'est pas... Après, le haraga, voilà, c'est l'anti-kamikaze. Hein. Leur mort, s'il meurt, ben, il meurt pour lui. Quoi. Il va pas aller prendre d'autres... Enfin, Si je m'explique, je m'embrouille un peu. Kamikaze, il va aller se faire péter et faire péter d'autres gens avec lui. D'accord ? Haraga, non. Et lui, au fait, il ne va pas pour le suicide parce que le suicide, on va pour la mort. Ben, lui, il va pour la vie. Mm-hmm. Donc, c'est une autre démarche. Ce n'est pas du tout un suicide, en fait. Moi, je qualifie comme un acte de liberté. Hein ? On y va. Bon, il y a rien. Il y a ça, on se le crée nous-mêmes. Hein, on va aller nous-mêmes fabriquer ce qui peut servir comme un cercueil parce que c'est... C'est une embarcation de fortune et pourvu d'arriver. Voilà. On pose pas comment on va être après. Ça c'est plus tard. Hein. Ça c'est comment il faut faire pour y aller. Eh ben comment il faut faire pour aller. Dès que t'as un problème, dès que tu vois que les gens qui sont en place, qu'ils ont un travail, qu'ils ont un logement, qu'ils ont une famille, souffrent et que toi t'as même pas ça et déjà t'es en train de souffrir. Voilà. L'exemple est là. Donc les gens ils partent par manque d'espoir.
Et la lutte n'est pas une solution envisagée en Algérie.
Moi, je voudrais intervenir sur cette question. C'est ce que je pense à ça justement. Ce sont donc des actes qui ne sont pas forcément isolés, mais sont des actes purement individuels. Ou comme vient de le rappeler Toufik, quand il décrit ces jeunes du même quartier qui vont décider de partir, donc un acte, je dirais, micro collectif. À partir d'une décision, etc. Je crois qu'effectivement, ça traduit aussi le fait qu'ils ne font pas confiance aux partis politiques qu'il y a en Algérie, actuellement. En Algérie, quand on parle de pouvoir, qu'est-ce que c'est que le pouvoir en Algérie ? Ben, c'est très difficile, véritablement très difficile à le décrire, ce pouvoir, tellement il est opaque. Le pouvoir, c'est un peu partout, et c'est nulle part. Et puis, il n'y a pas. Et ça pose cette question de démocratie, véritablement, hein, au sens noble du terme. Ceci étant, effectivement, en Algérie, il y a des espaces hein, de démocratie qu'on peut retrouver à travers des associations, etc., parce qu'elles existent, elles travaillent aussi avec les petits moyens qu'elles possèdent. Mais il y a toujours une mainmise, un regard. Du pouvoir vis-à-vis de toutes ces tentatives d'expression, etc. Et les haraga, et je dirais même ceux qui ne le sont, enfin qui ne le deviennent pas, sont confrontés à cette problématique de participation de l'individu à diverses formations politiques ou quoi que ce soit, parce qu'ils ne font plus confiance à qui que ce soit, tellement qu'il y a que ça fonctionne pas de façon démocratique.
J'ai lu une phrase dans un article, c'est à propos des jeunes Algériens, ils votent avec leurs pieds et ils partent.
Ouais, c'est une métaphore qui est
assez éloquente.
Ouais, tout à fait.
Et pourtant, chaque jour en Algérie, enfin, assez régulièrement en Algérie, il y a des émeutes. Aussi, une autre façon d'exprimer sa révolte et d'essayer que les choses elles changent.
Oui, en fait, vous voulez, voilà, il y a, enfin, le pouvoir, comme il disait, a fait, donc il a trouvé vraiment le mot qu'il fallait, donc c'est un pouvoir opaque, il est partout nulle part, ce qui est vrai aussi. C'est que le pouvoir en Algérie, il a peur. Donc, il a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il cède à chaque fois qu'il y a. Qu'il y a des gens qui sortent dans la rue, ils cèdent pour le logement, par exemple. À chaque fois qu'il y a une liste d'attribution de logement, il y a toujours des émeutes en Algérie, des gens qui simulent le feu, parce que sur la liste, il n'y a pas leur nom, il y a des noms des autres qui ont déjà des apparts qu'ils ne devraient pas y avoir. Bon, il y a la semaine dernière, il y a une femme à Oran qui s'immolait avec le feu, avec son enfant de 3 ans, parce que justement, elle a eu lucide justice le matin qui lui fait notifier qu'elle doit quitter son appartement. Hein, ça, c'est il y a une semaine. Hein, on n'est pas l'année dernière ou un mois. Donc, l'immolation avec le feu part en Algérie beaucoup de problèmes de logement. Donc, les gens ils font une demande de logement, l'État est construit. Quand il attribue, eh ben, ces gens n'en bénéficient pas et d'autres en bénéficient. Une espèce de bureaucratie qui n'est pas... qui est voulu, voilà, comme disait Hafez tout à l'heure, c'est nulle part. Quand tu dis nulle part, c'est aussi ça, en fait. Donc, c'est des gens qui participent pleinement à ça. Après, maintenant, pour parler de la lutte, en Algérie, c'est que tout le monde se plaint du même système, mais chacun marche pour sa gueule. Hein? Il y a la grève des enseignants, après il y a la grève des médecins, après il y a la grève du cheminot, après il y a la grève de la faim des chômeurs qu'a connu la ville du sud de Hassim Saoud. Et ça, c'est le gros problème. Donc tout le monde en parle, même certains intellectuels essayent de réfléchir. Comment essayer de mobiliser tout ça, en fait, vu que le même problème vient du même système? Alors, là, il faut tenir en compte qu'on a vécu 10 ans sur le terrorisme et que quand le multipartisme était créé en Algérie, hein, donc, des jeunes de ma génération à l'époque, on ne pouvait pas faire la politique parce qu'on était encore trop jeunes. Bon, on avait des parents, des amis et tout qui étaient dans des partis politiques de l'opposition. Et quand le terrorisme est arrivé, ce lien de relève, hein, si on veut, hein, de transmission de valeurs, de lutte, de voilà, comment faire un tract. Voilà. Ça n'a pas été fait. Donc on a vécu 10 ans sur le terrorisme. Et là, aujourd'hui, vous avez des jeunes qui savent ce qu'ils veulent et qui, en même temps, ils savent surtout ce qu'ils ne veulent pas. Et ce qui est intéressant, en fait. Donc, ces jeunes, peut-être qu'ils n'ont pas eu les outils de lutte. Hein, faire une AG, rassemblement, sortir dans la rue, occuper, tout ça. Mais de l'autre côté, ils veulent pas la bureaucratie, ils veulent la démocratie, ils veulent être libres. Et le seul moyen qu'ils peuvent l'exprimer, c'est la violence. Hein? C'est une violence qui répond à une autre violence. Hein? Donc, y a pas
tout
de...
à fait. Cette question de la violence, elle est omniprésente dans divers secteurs de la société algérienne. En fait, il y a plusieurs formes de violence. Hein? À côté de la violence symbolique, il y a cette violence quotidienne qui se traduit de diverses façons. Et que subit, j'irais, le peuple algérien dans sa majorité, hein, et surtout cette jeunesse qui est quand même à 75% à moins de 30 ans, il n'y a plus de perspective d'avenir, etc. Et c'est tout simplement parce que les pouvoirs qui sont succédés en Algérie, hein, et qui font partie du même système culturel, je dirais, depuis l'indépendance, eh bien, on voit qu'ils sont véritablement en décalage avec la propre histoire, avec la propre histoire du peuple algérien. Et ça, je crois qu'il faut le mentionner. Et bien entendu, quel que soit le pays, d'ailleurs, même en France, on sait que les systèmes cachent beaucoup de choses. Hein, les pouvoirs cachent beaucoup de choses. Et en Algérie, on le voit actuellement, d'ailleurs. Hein, c'est un peuple qui a un génie populaire, le peuple algérien, la jeunesse, elle possède son propre génie populaire. Il y a toujours cette véritable envie de créer, mais cette création, quand je parle de culture, c'est au sens global. Quand je parlais de culture et d'espace culturé, c'est bien la traduction du fait que cette jeunesse veut véritablement participer à cet ordre nouveau mondial, etc. On est passé d'un monde clos à un univers infini, quand même. Et je crois que c'est cette tendance à l'ouverture, je crois qu'elle est, elle traduit bien la volonté de cette jeunesse de franchir les frontières pour, bien entendu, ne serait-ce que avoir un autre niveau de communication avec d'autres jeunes de l'Europe.
Ah, mais d'ailleurs, justement, pourquoi partir vers l'Europe et vers la France, en particulier pour ce qui concerne les jeunes Algériens?
Bon, déjà, il y a des liens historiques entre l'Algérie et la France, hein, on le sait. Il faut savoir que l'Algérie est le premier pays francophone du monde, après bien sûr la France. Mais donc il y a cette raison qui peut s'expliquer par l'histoire, la langue et la culture aussi. Mais il y a effectivement d'autres pays qui sont visés. Ben, il y a plein de jeunes aussi qui tentent de partir en Angleterre, en Belgique, en Italie. Bien sûr, il y a des réseaux, hein, Bulgarie, Slovénie, etc. J'ai rencontré pas mal de jeunes comme ça, parce qu'à un moment, je m'occupais donc de réfugiés, de demandeurs d'asile territorial, et je connais pour quelques-uns assez bien leur parcours. Et je crois que partir pour l'Europe, pourquoi? Parce que, bon, l'Europe, c'est quand même... Il n'y a pas que la France, hein. Il y a une culture des droits de l'homme aussi. Hein. Je crois qu'il y a... souvent, ce sont des états de droit, ce qui n'est pas forcément vrai dans les pays du Maghreb. Hein. Il y a ces raisons idéologiques qui poussent aussi à aller en Europe. Pourquoi? Bon, parce que c'est aussi la Méditerranée pour ce qui concerne. Donc la Grèce aussi, j'ai oublié la Grèce, etc. Bon, l'Italie, l'Espagne, etc. Il y a une culture méditerranéenne. Et puis voilà, après il y a des expériences, bien entendu, une fois en Europe, on essaie de se débrouiller, on va alors, dans ce cas-là, le plus souvent au Canada ou aux États-Unis.
Ben, c'est aussi une question de langue, je parle pour les Algériens aussi, parce que ça facilite, j'aime pas dire l'intégration, mais je suis obligé de l'employer. On gagne du temps quand on connaît la langue, quand on arrive dans un pays. On ne perd pas beaucoup de temps comme si on arrivait dans un pays qu'on ne connaît pas. L'Europe, parce que c'est riche, parce que c'est aussi par rapport à une justice sociale. J'avais dit un truc intéressant par rapport à la jeunesse algérienne et le fait qu'il y ait un désaccord entre eux et le pouvoir qui a oublié sa propre histoire. Enfin, les Algériens, en fait, aujourd'hui, vivent dans un monde connecté. Hein, Facebook, Internet. J'ai un petit frère qui il a 22 ans et il me dit « Ouais, j'ai vu où tu habites parce que j'ai regardé sur Google Maps. » Je ne sais pas si le ministre de l'Intérieur connaît Google Maps. Enfin, il y a des trucs qui font en sorte que l'Europe restera toujours. Historiquement, en fait, ça a toujours montré que ceux qui partaient en Europe réussissaient mieux leur vie que ceux qui restaient dans leur pays. Donc, c'est aussi une façon de dire il n'y a que cet endroit-là et donc il faut y aller.
Mais ceci dit, réussissaient leur vie. Enfin, pour ce qui est des relations France-Algérie, la France organisait aussi des déplacements de population depuis l'Algérie pour fournir de la main-d'œuvre qui allait servir à alimenter l'industrie française. C'est aussi au XXe siècle, ce qui s'est passé jusqu'en 1962, organisé par la France. Là, c'est pas les gens qui choisissaient eux-mêmes d'émigrer vers l'Europe.
Ouais, mais là, si vous voulez, on parle de rapport entre deux gouvernements.
Voilà.
Alors, moi, je suis resté sur les aînes, la population, tout ça. Maintenant, pour revenir à ça, ben oui, donc je pense que depuis très longtemps, la France choisit, hein, l'immigration choisit, le mot employé par Sarkozy, les immigrés algériens l'ont connu depuis très longtemps. Donc, quand les gens sont arrivés, on pesait leur poids, avoir leur taille, et suite à ça, ils étaient orientés vers des métiers et tout ça. Donc, ça, l'immigration choisit peut-être pour d'autres populations, mais pas la population algérienne. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le plan de l'immigration, la France joue avec l'Algérie un jeu de pile aux faces. Le problème, c'est que pile, c'est la France qui gagne et face, c'est la France qui ne perd pas. Et du coup, on se trouve dans une situation où il y a un livre justement où il explique magnifiquement ça. C'était les Africains répondent à Sarkozy. Suite au cours de Dakar qui a fait Sarkozy, il y a 12 intellectuels africains qui ont fait un livre. Ils disaient que il y a des années en arrière, ils nous ramenaient enchaînés ici en Europe. Et qu'aujourd'hui, au fait, s'enchaîne, nous, on essaie de venir pour être enchaînés. Donc, il y a cette espèce de, comment dirais-je, de traiter les gens comme comme c'est l'esclavage moderne, quoi. C'est voilà, c'est pas moi je pense que c'est plus une question de rapport de force, hein. La France fait du chantage à l'Algérie et d'autres pays par rapport à au nombre des gens qu'elle expulse. L'immigration en France, ben ça reste toujours un sujet électoral, hein. Hein, c'est là-bas où on va chercher, voilà, où ça va mal, où ça va bien. Après, ce qui est sûr, c'est que le pouvoir algérien lui-même a décidé, voilà, suite à des accords, on parlera peut-être tout à l'heure, mais sur les accords bilatéraux, de voilà, prendre en charge, hein, pour une question de dignité, les ressortissants algériens, hein, qui échouent, qui se font arrêter ici, en France ou en Europe. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que renvoyer un Algérien de l'Europe en Algérie, ça coûte 0 euro aux États européens. On est producteur de pétrole et gaz. D'accord ?
Parce que l'Algérie prend à sa charge tous les coûts qui concernent la patrimoine.
Là, vous expulsez 2000 personnes en Algérie, hein, vous les expulsez de Marseille ou de Rome ou de je ne sais pas quoi, c'est l'Algérie qui paye.
Peut-être ça vaut le coup de revenir sur... effectivement, il y a des gens qui prennent des embarcations de fortune pour venir jusqu'en Europe, parce qu'effectivement, au niveau légal, les possibilités d'immigration sont vraiment bouclées, quoi. Donc, on peut revenir, même très concrètement, ça commence au moment où, quand on est algérien, on va demander un visa. Peut-être on pourra revenir sur ces questions-là. L'Algérie se trouve être le pays où il y a le plus de visas vers la France qui sont refusés, parce que c'est 35% des visas algériens qui sont refusés en Algérie. Et ce, sans être sans qu'il y ait d'explication de pourquoi, quoi.
Alors que la moyenne des autres pays est de 9%.
C'est autour de 9%.
Ouais. Ben, ce qui s'est passé, d'ailleurs, il y a la CIBAD, ils ont pondu un rapport l'année dernière qui a beaucoup dérangé, d'ailleurs, le consul de France en Algérie, qui était obligé de faire un droit de réponse dans la presse algérienne. C'est que, oui, effectivement, on est champion au monde, nous, les Algériens, au refus de visa. Hein. C'est que l'ambassade de France refuse en Algérie des visas. De toute façon, t'es moins de 40 ans, systématiquement, indépendamment de la situation, t'auras pas de visa. Une. Deux. Il y a le visa qui a été refusé à des étudiants alors que leur dossier était accepté dans les facs en France. Hein? C'était pas un motif de refus vu qu'il a été accepté. Hein? Deux, trois. On paye 80 euros pour faire la demande de visa. Et si le visa il est refusé, on n'est pas remboursé. Et si on a le visa, eh ben on paye les frais de visa et les 80 euros qu'on a payés ne sont pas inclus dans les frais, sont pas réduits des frais de visa. Bon. Le gouvernement français part du principe que tous ceux qui viennent ici ne repartent pas. Alors, indépendamment de leur situation, peut-être que les gens ils viennent juste pour visiter ou pour aller voir comment ça se passe, passer des vacances, tout ça, ont beaucoup du mal à avoir leur visa. Et quand on ferme là, ces voies, la voie légale pour avoir un visa, donc, de ce côté-là, on laisse... La lutte contre l'immigration, l'immigration clandestine, elle est mal faite, parce que normalement, on devrait aller à la base, voir qu'est-ce qui amène ces gens-là, indépendamment de leur situation économique et sociale dans leur pays. Ça, on ne le voit pas. On ne se demande pas pourquoi les consulats, quand je parle de consulats de France, parce qu'il y a d'autres consulats qui refusent le visa, pourquoi il n'y aurait pas un échange, hein, ou débloquer beaucoup, beaucoup plus de visas pour permettre aux gens justement de venir et repartir, qu'il y ait un échange, qu'il y ait une liberté de circulation. Ça n'est pas, et du coup, on se retrouve avec... vous n'avez pas le choix. Vous faites un visa, vous payez, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez même la famille qui vous attend en France, et vous ne venez pas. Alors, à partir de ce moment-là, donc, c'est eux, hein, c'est la politique que mène la France en Algérie par rapport au quota de visas, qui développe ou qui enrichit l'immigration clandestine. Il y aurait beaucoup moins de morts, hein, il y aurait beaucoup moins de risques si le consulat de France délivrait des visas aux gens qui en plus, c'est même une question d'indifférence, c'est ça qui est triste, au fait. Il est légitime qu'un ambassade de n'importe quel pays refuse le visa à un citoyen parce qu'il ne remplit pas certains critères, mais on le met au courant. Voilà, monsieur, votre demande de visa a été rejetée parce que voilà, votre relevé de compte n'est pas adéquat ou votre fiche de paie. En Algérie, on ne répond pas. Personne ne peut avoir un justificatif.
Voilà. Mais peut-être parce qu'il n'y en a pas, de fait. c'est que peut-être qu'il n'y a pas de raisons objectives qui font que telle ou telle personne n'est pas, n'a pas de visa. Peut-être que ce qui prévaut, c'est des quotas. Un certain nombre d'entrées qui sont acceptées en termes de nombre et pas en termes de personnes.
Mais même... et la peur de l'État français de voir des gens arriver sur le territoire français et de ne pas vouloir repartir, qui est aussi un fantasme français sur la population algérienne.
Il y a ça, mais dans une démarche administrative par rapport au divisa, parce que ça reste une démarche administrative, les possibilités de recours par rapport au refus du visa ne sont pas connues de la population algérienne. Même les voies juridiques où tu peux contester ton refus de visa, il n'y est pas. Donc en fait, il y a une réelle volonté de faire en sorte de prendre de l'argent, parce que c'est de l'argent qu'ils prennent sur 80 euros de moins, vous prenez le nombre des demandeurs de visa. Donc ça fait beaucoup d'argent qui rentre tous les jours dans les caisses de l'État français. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Ben, je ne sais pas. Donc,
c'est des millions carrément, hein, parce que si on compte, il y a à peu près, il me semble, 200 000 demandes de visa ces dernières années.
C'est un marché.
Voilà.
Ah, mais c'est donc, carrément, c'est un marché.
Si on enlève 35%, si on fait 35% de 200 000, ça fait 70 000 fois 80 euros.
C'est un marché, sachant que les gens, quand on leur refuse de visa, ils refont une demande, après ils refont une demande. C'est un marché. Mm-hmm. Voilà. C'est un marché qui est rentable. Il n'y a pas de contrôle, personne ne surveille, on a du compte à rendre à personne, donc il y a de l'argent à prendre, on y va, on y prend.
Peut-être on peut faire un petit rappel historique, c'est qu'en 1962, au moment où l'Algérie devient indépendante, il y a des accords bilatéraux qui sont signés entre la France et l'Algérie en ce qui concerne la mobilité des personnes et donc tout ce qui concerne entre autres l'immigration des Algériens vers la France, et donc qui à ce moment-là permet la libre circulation des Algériens et des Français sur les deux territoires. Et puis très très rapidement, ça va changer, la donne va changer, puisque dès 68, il faut des passeports, et puis assez rapidement, je crois que c'est en 86, il faut des visas, et puis là, les visas deviennent compliqués et tout ça. Puis on voit que très rapidement, les choses s'accélèrent. En 90, il y a 800 000 visas qui sont accordés chaque année. Alors qu'on est en pleine guerre civile en Algérie, en 96, il n'y en a plus que 80 000. Donc on voit aussi une logique française de fermer les frontières au même moment où l'Europe aussi décide de boucler son territoire, quoi.
De toute façon, par rapport aux accords bilatéraux qui existaient depuis 62 jusqu'à aujourd'hui, on sait de la manière dont ils évoluent, on voit que tout est lié justement au contexte socio-historique du moment. Mmh. Hein. Jusqu'aux 30 Glorieuses, il n'y avait aucun problème. Il y a le plein emploi. 1962, c'est le plein emploi. C'est la reconstruction qui continue dans tel ou tel pays, etc. 74, crise financière, crise pétrolière, etc. Durcissement de la politique migratoire depuis Giscard. Mitterrand n'a pas fait grand-chose aussi par rapport à cette politique d'établissement de visa, etc. Bien sûr, on dit que tout est lié à la crise internationale, etc. Mais il y a aussi cette raison de la part des deux États, hein, qui, dans leurs accords bilatéraux, qui changent très souvent, n'est-ce pas, Toufik, on se perd les pédales, enfin on perd les pédales.
Hein, et puis j'ai l'impression que même s'il y a des accords, enfin on dit souvent que les Algériens bénéficient d'accords bilatéraux, comme en fait toutes les anciennes colonies françaises, il y a des accords bilatéraux qui sont mis en place. On parle souvent de bénéficier, mais finalement en fait, comme pour tout migrant en France, il y a le droit et puis il y a la façon dont il est mis en place. Et puis même si on a tout pour soi pour avoir des papiers en France, très très souvent c'est mis à mal par des administrations qui décident de saper tout projet de
bien sûr, parce,
en France.
Parce qu'on est davantage dans une logique de finance qu'une logique purement humaine.
Exactement.
Et je crois que par rapport à cette question de visa aussi, il faut savoir qu'il y a un marché des visas à l'intérieur de l'Algérie.
Exact.
C'est-à-dire, si vous connaissez une personne qui on peut acheter un visa.
Qui a été refusé, c'est ça en fait qui est marrant.
300 000 dinars, 30 millions de centimes algériens, ou à 500 000 ou à 600 000, je ne sais pas quel est le taux actuel.
Et alors, si on doit parler de marché, il y en a un qui se porte très bien. C'est notamment tout ce qui se rapporte à Frontex, l'agence qui a été créée par l'Union européenne pour assurer sa protection face aux migrations. Donc quand même, les chiffres, dès 2005, c'est 14 millions d'euros. 2007, 72 millions d'euros. 2010, 89 millions d'euros. Tout ça, ça nous donne 116 bateaux, équipés en particulier de radars pour repérer les embarcations en mer, 27 hélicoptères, 21 avions, et puis donc des polices très très bien équipées, et aussi des formations pour les policiers tout autour de la Méditerranée pour lutter contre ça. Mais c'est quand même beaucoup d'argent et un beau budget.
Mais c'est ça, c'est aussi... On prend juste un exemple quand on parle de l'aide au développement. Que les dirigeants européens pour des questions humanitaires, parce que oh là là, ils ont vu trop de corps sur la Méditerranée, ça dérange quand on fait bronzette de voir des blacks et voilà, et des arabes jetés sur le sable. Et bon, ils ont décidé voilà de faire l'aide alimentaire. C'est que l'aide alimentaire, on va donner de l'argent à des États qui sont déjà riches. Hein, l'Algérie, c'est pas un pays pauvre. Et cet argent-là, on va le donner à des dirigeants qu'on sait qui sont corrompus. Hein. On ne demande pas, la Commission européenne n'exige pas, quand elle donne des crédits à des États, de le suivre. Hein. Ils font confiance aux rapports qui reviennent du même État pour dire voilà ce qu'on avait votre argent, ceci, cela. Et donc on dépose des sommes qui donnent du vertige quoi, pour justement. Empêcher les gens de vivre tout simplement, parce que si cet argent là il a été bien géré, je crois que le problème d'immigration peut-être qu'il sera pas résolu, mais il sera au moins diminué de beaucoup, d'autant plus qu'un pays comme l'Algérie, parce qu'on reste sur l'Algérie, ils ont pas besoin d'argent. Hein, il y a 196 milliards de réserves de change, donc c'est un pays qui veut maintenir, comme disait Hafid, cette situation pourrie. C'est ça qui légitime son maintien au pouvoir. Hein. Vous imaginez, on n'est pas nombreux, on est 35 millions d'habitants. Hein, et avec 196 milliards de réserves de réserves de change. Et juste un exemple par rapport à... Tout à l'heure... Mais l'autre, tu parlais du lutte. Le président Bouteflika a mis 34 millions d'euros, je redis le chiffre, 34 millions d'euros dans l'achat d'équipements anti-émeutes. Mm-hmm. Ah. On est 35 millions d'habitants. 34 millions d'euros, il aurait donné 1 million d'euros à chaque Algérien, je vous jure qu'il n'y aura jamais de problème. En Algérie. on est dans une espèce de haine, voilà, moi je dirais une haine, voilà, c'est une génération qui est au pouvoir depuis 62, hein, qui s'est auto-proclamée la génération qui a amené notre indépendance. Et d'ailleurs, le président Bouteflika lui-même le dit. Hein, Tekisto, il dit, c'est pas tout le peuple algérien qui a eu son indépendance, c'est une élite qui l'a arraché et qui lui a offert. Bon, à partir de ce moment-là, en fait, on comprend bien le discours haineux hein, qu'ils ont nous dirigeant envers les gens. Donc la situation sera amenée à pourrir parce que tout simplement, il n'y a pas une réelle volonté politique pour venir en aide à ces jeunes. C'est tout. Il faut aller les solutions, il ne faut pas aller les chercher ailleurs. Hein.
Donc peut-être avant de revenir sur la situation plus spécifique des Haragas, on va écouter un morceau et c'est Erkan.
Bonsoir. En 2009, l'année dernière, les gardes-côtes algériens et espagnols ont intercepté plus d'un millier de personnes et repêché près de 900 corps, en majorité des hommes entre 20 et 30 ans. Combien sont partis? Combien ont disparu? Ces chiffres n'existent pas. Seule certitude, ils sont en augmentation constante depuis 2005, année à laquelle cette émigration clandestine a pris de l'ampleur en Algérie. Le voyage est tout à fait réalisable pour qui s'organise un peu, vend sa voiture, emprunte à ses amis. Qu'ils aient un travail, un diplôme, une famille ou même un peu d'argent, les Haragas racontent tous ce manque de perspective qui caractérise leur génération. Souvent, ils ont du mal à trouver des mots pour le dire. Mais par bribes, ils évoquent la difficulté à se marier, à avoir un logement, à vivre.
La voie est libre, la police n'est plus là. Il est minuit sur la plage de Bahara. C'est le point de départ, tout est prévu, calculé. Les six hommes présents savent que leur vie peut basculer. La barque Floura, équipée d'un moteur, achetée à Bouaroun, après tant de labeur. Je ne suis que le narrateur de cette souffrance. Je tiens ce témoignage d'un homme qui voulait voir la France. Ben Foda Ahmed est le chauffeur. Il connaît la mer comme personne, mais ce n'est pas un passeur. 130 litres d'essence, 200 bornes pour toucher le sable. Felfa, Robstmar et de l'eau potable. Ne pas partir sans la boussole, mais sans nos papiers. En cas d'échec, nul ne doit connaître notre identité. Quelques billets dans les doublures, ce sont des euros bien sûr, mais surtout pas des dinars. Un coup de fil en Espagne confirme que la mer est plate. Ça y est, on part, et là le cri de mer éclate. Normalement, témoigne-t-il, tant que derrière nous les lumières de l'Algérie scintillent. Au milieu de l'eau, programmé à suivre le nord, il n'y a plus rien, nous sommes face à la mort. Des troubles du comportement apparaissent chez certains haragas, des peurs, des angoisses naissent, l'inconnu est là. Tant de panique et de vomissement, une bagarre éclate, ils agissent égoïstement. Ahmed gère au mieux son embarcation et doit agir violemment pour mener à bien l'opération entre les vagues. Cette boussole qu'il ne doit lâcher, cette direction qu'il ne peut perdre et sa peur qu'il doit cacher. Lui qui connaît le taux de mortalité, ses gros ferries, tous ses bateaux à éviter. Tous ces détails pour ne pas que les gardes-côtes accourent. Ces passagers qui changent d'avis et veulent faire demi-tour. À plus de 4 heures du départ, voilà comme ils agissent. Une seconde pause est imminente pour que le moteur refroidisse. Cette mécanique à hélice est notre sauveur. Sur l'embarcation, nous sommes la tête et lui notre cœur. Tentative, survivant d'un naufrage, avec la hargne, il récidive. Toujours d'après Ahmed et son témoignage, il peut même ramer 20 bornes et 2000 mètres à la nage, à la rage. Surtout quand les montagnes se dessinent, quand la poisse se débine, quand l'Espagne te vésigne. On jette les affaires à la mer, gardons le nécessaire. Alhamdoulilah, Iyallah, moi, mes prédécesseurs. Même si la police nous prend tout de suite maintenant, nous sommes heureux d'avoir traversé et d'être vivants. À la rame, nous avançons vers cette plage, elle est noire. De monde, ça change rien à notre espoir. Quelques touristes nous filment, d'autres nous tendent la main. Nous devons trouver un buisson, nous cacher jusqu'à demain. Pour nous changer, une forêt, un abri, la fatigue est lourde, le corps et l'esprit ont beaucoup subi. C'est une grande épreuve qui vient de passer. Leur objectif n'était pas de voir la terre, mais de la toucher.
Alhamdulillah, ya Rabbi, b'sa. Wassalna, ya Rabbi. Al-Juara, katilni. Wabsa, aslikna. Bizzaf, al-Natou. Sahab, al-Maghrib, al-Ghazawat. Benissaf, Tlemcen. Warren. المسالم ولا باسي بيكار ولاد بوغالم زرار فاع البحارة صحاب الدشرية والقلدان تنس شلف صحاب الجزائر عنابة وتنس وش حامك حليش من السنغال والمالي ماتو شكرا يا عم وصلنا وصلنا
Alors, on va revenir maintenant sur qui sont les haragas, peut-être en commençant par revenir sur ce que signifie le mot en arabe. Ça veut dire ceux qui brûlent, mais qu'est-ce que ça veut dire ceux qui brûlent leurs papiers, par exemple ? Ceux qui brûlent leurs papiers, ceux qui brûlent les frontières. Est-ce que, je ne sais pas, vous voulez expliquer un peu ce que ça signifie ?
Bah, haraga, c'est l'arabe dialectal. C'est un mot que les jeunes ont employé à partir du moment... À la base, ça signifiait... On employait ce mot-là, en fait, pour désigner la sortir... de quitter le territoire algérien, quoi, d'une façon clandestine. Donc, c'était... ça ne marche pas, naharak. Ça ne se fait pas ça, naharak. Bon. Après, harak, voilà. En arabe, en terme, c'est brûler. Bon. Après, brûler, c'est aussi... brûler les étapes, ne pas atteindre parce que ça ne viendra pas. Brûler aussi, ça veut dire quand tu brûles la chose, elle ne peut pas revenir dans son état qui était à l'origine. Hein? Donc c'est vraiment, c'est se déchaîner. Quoi. Donc c'est un mot qui emploie beaucoup de rage, hein, pour expliquer qu'il faut partir. Voilà. Il faut partir, ne pas revenir, ne pas se poser des questions comment ça va être et tout ça.
Moi, je voudrais faire un parallèle avec les indignés. Hein ? Je crois que c'est très important. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait des actes individuels et des actes que je qualifiais de micro-collectifs, hein, en prenant l'exemple que Toufik nous a relaté concernant ces jeunes du même quartier qui décident ensemble de partir vers un autre ailleurs. Et voilà ce qui me semble important, c'est qu'il n'y a même pas de possibilité d'organisation en Algérie en dehors des partis politiques. Mais les partis politiques, il faut le reconnaître, ils jouent tous le même jeu. Il y a une espèce de dramaturgie politique qui s'est installée en Algérie. Et ces jeunes n'ont plus finalement d'appui qui pourrait les aider justement à construire un autre avenir en Algérie même. Hein. Donc le parallèle que j'ai fait avec les indignés, donc, qui est parti de Madrid, etc., Barcelone, maintenant qui est même aux États-Unis, même à Wall Street, eh bien je crois que par rapport à ces indignés, et il y a Emmanuel Todd qui est un sociologue, qui est géographe éminemment connu et que j'aime beaucoup dans son analyse par rapport aux indignés justement. Il y a plus cette relation avec les partis traditionnels, les partis politiques traditionnels. Hein. Il y a une spontanéité qui est apparue, et je crois que, parce qu'il y a les moyens aussi, les moyens de se solidariser, il y a des nouvelles formes de solidarité qui existent dans les pays européens, qui n'existent pas forcément en Algérie, parce qu'on les empêche, bien entendu. Hein. Il n'y a pas de structuration qui peut se développer à cause justement de l'autoritarisme. De l'autoritarisme, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas d'autoritarisme et de politique volontaire, une politique de violence qui est... Moi, je ne suis pas contre l'État algérien, parce que l'État algérien, c'est aussi le facteur, c'est l'instituteur, etc. Mais je suis contre cette forme de pouvoir qui fait souffrir toute une population. Et je crois qu'il faut qu'il se remette en question. Quelque part, on arrive quand même... un moment où les prises de conscience ou les volontés de création se multiplient, et je crois que véritablement il faut prendre conscience qu'on doit réinventer peut-être l'idéologie, mais surtout le politique.
Et donc peut-être pour revenir plus concrètement au Haraga, parce qu'il nous reste peu de temps, c'est on parle souvent du fait que c'est des jeunes, mais ça a l'air beaucoup plus subtil que ça, quoi. C'est beaucoup plus complexe que ça, finalement.
Ouais, au début, quand ça a commencé à partir, c'était des jeunes qui partaient. Des jeunes garçons, voilà. Et après, ces jeunes garçons, ils ont été rejoints, hein, dans leur aventure par d'autres personnes qui étaient plus âgées. Hein. On a vu des personnes qui avaient 50 ans, 55 ans, qui partaient. Et après, on a vu encore des personnes plus âgées que ces gens-là. Et après, on commence à découvrir petit à petit des femmes, hein, des jeunes filles, des femmes enceintes. Hein. Et donc, l'embarcation de fortune dans sa composition d'individus, dans sa composition sociologique d'individus, fait, il y a tout le monde. Voilà. Tous les gens qui vivent mal, ou qui considèrent qu'ils vivent mal, qu'ils peuvent vivre mieux ailleurs, ils partent. Et du coup, ouais, on a, sur une embarcation de fortune, on a un échantillon de la société algérienne. Vous trouvez des gens qui sont en bac plus 4, comme des gens qui n'ont pas été à l'école, comme des gens qui avaient un travail, comme des gens qui avaient des situations, mais que le désespoir et le manque de perspective d'avenir font en sorte que tout le monde doit partir. Moi, quand je discute avec des jeunes ou avec des amis qui sont médecins, qui sont avocats, ils me disent « Ouais, ben, s'ils trouvent une occasion, ils partent. » Ils ne veulent pas partir dans une embarcation de fortune, mais l'idée de partir, elle y est. Hein. Donc, il faut juste qu'ils trouvent un autre moyen. Voilà. Ils ne veulent pas prendre ce risque-là, mais ils sont prêts à prendre un autre risque.
Et qu'est-ce que ça produit dans la société algérienne, qui est cette inflation de gens qui partent, parce que les chiffres augmentent. Alors évidemment, sur les chiffres, on est quand même c'est évidemment très flou, parce que comme ce sont des départs qui sont clandestins, il y a quelques chiffres qui sont donnés par la police algérienne. Donc il y a de plus en plus de gens qui se font arrêter, soit sur les côtes, soit dans les bateaux. Mais en tout cas, ça, c'est un phénomène en en explosion quoi, en Algérie. Donc qu'est-ce que ça produit dans la société algérienne?
Ben, ça produit plusieurs choses négatives, parce que déjà c'est une tragédie nationale. Et de deux, il y a beaucoup de pertes quand même. On a perdu beaucoup de jeunes algériens. Et de l'autre côté aussi, ça a créé une gêne sur le pouvoir, hein, qui a décidé de répondre au phénomène de Harga par la pénalisation. Quand on part dans une embarcation de fortune en Algérie et quand on échoue, hein, enfin échouer, quand on ne meurt pas, ben si on est arrêté, on fait 6 mois de prison ferme. Et cette solution a été venue, hein, systématiquement en fait, pour dissuader les jeunes de partir.
On a aussi lu que le pouvoir algérien sollicitait les imams pour faire renoncer les gens à leur projet de départ en invoquant le fait que partir c'était comme un suicide et que c'était contre les lois de l'islam.
Ben, ça c'est la preuve d'un échec d'une politique du gouvernement, parce que quand on a recours aux religieux, ce qu'on est incapable de faire par nous-mêmes. Et même les religieux à qui que le pouvoir algérien a sollicité les fatwas pour dire que Harga c'est un péché, il est parti voir des religieux de l'Arabie Saoudite, qui est quand même le fief du wahhabisme. Donc on a vraiment l'exemple du gouvernement algérien qui cherche à venir en aide aux jeunes. Et là, il est parti solliciter des imams qui ils sont restés bouche cousue face à l'injustice du pouvoir, hein, qu'ils ont soutenu toujours pendant leur existence les tyrans. Et ces gens-là sont venus en Algérie pour dire, voilà, donc Harga, c'est pas bien, parce que si tu meurs, c'est un suicide. Et si tu suicides, tu n'iras pas au paradis. Et donc on a essayé d'évoquer le volet religieux pour essayer de répondre à un problème qui est carrément social.
C'est-à-dire qu'en fait, la religion s'établit comme appareil idéologique d'État, tout simplement. Voilà.
C'est, voilà, ça reste... nous, on n'en peut pas, ben, on est musulmans, ben, on va aller sur recours aux autres.
Rap algérien, miyab le miyab le klam arbi, balak, sadem al gharbi. Aïe, 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 wesh y'en khawa, amara se kest khalwa, le micro du brise skat. 9-9 دالتنا MBS في القبحة بالملاحة واش كيف
لكن شدي واملح ما مخطف ملقاشة تلقان ما زالها مربوطة يضر شو سادو هاد الحلا لما الحلا أنا لي راني مدمر ولا انت لي راك قادر ولا هو اللي مول البحر يا ترى شكون جا لينا اليوم ما ضربنا لحدي كي كان سخون كل واحد يعوم بحرو يضرب على مخدافو هجمت بدلت والو صغري قولوا لي انتوما شبيبه ضيعه امن بيها في قبري كل شي تربيبه مغلوقه نطرح كيف كيف بدلي بات الناطر كيف كيف قلب الله في الحومه ولينا شو القرات المحتله حقره والخوف ما زال الجوف ما بقى تعرف البهجه شدي لا تدلق لا مفنانه ميطيحو كي دبان يا ترى شو ساعدو هاد الحاله ليه ماهي حاله فلان وفلان De l'autre côté ou d'ici, c'est presque le même souci. C'est kéké, les hongras ou le nez, les chambres à chouquer, étranger de c'est. De l'autre côté ou d'ici, c'est presque le même souci. C'est kéké, kéké. De l'autre côté ou d'ici, c'est presque le même souci. C'est kéké, les hongras ou le nez, les chambres à chouquer, étranger de c'est. De l'autre côté ou d'ici, c'est presque le même souci. C'est kéké, kéké. Toi, toi qui es né là-bas, né entre le marteau et l'enclume, pris entre deux cultures, t'as pas le choix, il faut que tu assumes. Mais partout, je vois des drapeaux, tes origines, tu les as dans la peau. Musulman basané, rêve de retour, fané, Alger, ça pas mal, tu compatis, je le sais bien. C'est ça, essaye de renouer les liens, ça me donne du courage. C'est quelques mots que t'as placé en algérien. Wahed, Souk, Tlata.
انا ويا كيف كيف صحنا شو ما شو كيف
انا ويا
تخيل في فرنسا كان كاين روجي بس بصح ما نقبلوش الحقرة نعرف اللي في
النيل في العرب تخرج في الفيتور اما انتر دو غروس بوينتور الكومبا وي سيف de l'autre côté ou d'ici, c'est presque le même souci. C'est kiki, le hogar ou le chômage kiki. Et donc j'ai baissé de l'autre côté ou d'ici, c'est presque le même souci. C'est kiki, kiki. De l'autre côté ou d'ici, c'est presque le même souci. C'est kiki, le hogar ou le chômage kiki. Et donc j'ai baissé de l'autre côté ou d'ici, c'est presque le même souci. C'est kiki, kiki. قال نلقى وين الحقنا ونقولوا واش قلنا وكاين يسمعوا بينا اللي هو هنا من الحرب جينا اللي كاين فيكم حنا تاني فينا كاين لاراش كاين اللي كاين الشوماج كاين لا ان دوماج ماشي كيف كيف معيشتنا كيف كيف تخمم اخطيني نخطيك تم سيرتنا انبياس بسم الله لحق الدالتنا لحق الدالتنا ودي سي سي قاس لما مسوسي سي كيف كيف لحضرة والنك والشو ما جوكي اترنجي بالسيك.